Bonjour à vous et bienvenue dans cette 45e édition d'Ethnovibro, l'effet social total, votre émission indisciplinée de sciences sociales. Et pour cette dernière émission de la saison, et oui déjà, nous vous avons concocté une convergence sonore exclusive. J'ai la joie de recevoir la sociologue Hélène Stevens qui vient nous parler de l'ouvrage « Avoir 20 ans à Sainte-Soline », un recueil de témoignages et de contributions pluridisciplinaires constitué par le collectif du Loriot et édité par La Dispute suite à la manifestation de Sainte-Soline en mars 2023. Vous entendrez également dans cette émission des extraits de manifestations collectés à Orléans lors du convoi de l'eau en août 2023 et bien sûr des ponctuations musicales, certaines glanées sur le terrain des rencontres du Galaison en Cévennes qui avaient lieu le week-end dernier à Saint-Martin-de-Boubou. Une occasion de faire lien entre sciences sociales, lutte contemporaine, musique traditionnelle, bref, tout ce qu'on aime ici dans Ethnovibro. C'est parti! Ethnovibro, l'effet social total. Radio Escapade. C'est grâce à la librairie La Bestiole de Viol-le-Fort qui a organisé sa venue que j'ai pu m'entretenir avec la sociologue et enseignante-chercheuse à l'université de Poitiers, Hélène Stevens, également membre du collectif du Loriot. Elle nous parle dans cette entrevue de l'origine de l'ouvrage, de son travail sociologique et du lien entre sociologie critique et politique. Elle nous parle aussi de cette jeunesse déterminée, politisée, en colère, mais aussi joyeuse, créative et super organisée qui compose le paysage militant des luttes contemporaines. Avant de retrouver Hélène, on écoute un morceau de Clume.
Bonjour.
Merci de ton passage à Viol-le-Fort, grâce à La Bestiole aussi, qu'on salue au passage. Je suis ravie de t'accueillir dans Ethnovibro. Pour commencer, oui, j'aimerais que tu nous présentes cet ouvrage, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, et le collectif du Loriot aussi, par la même occasion.
Alors ce livre, Avoir 20 ans à Sainte-Soline, le point de départ, évidemment, c'est la manifestation contre les mégabassines qui s'est déroulée le 25 mars 2023 dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline, dans ce petit village des Deux-Sèvres, et qui a été durement réprimé par la gendarmerie et les forces de l'ordre. C'est un contexte pour nous, collectif du Loriot, où on est tous enseignants-chercheurs à l'université de Poitiers. Et on était déjà, les semaines qui précédaient ce moment-là, très mobilisés contre la réforme des retraites à Poitiers, avec les collègues et avec les étudiants, et puis plus largement avec les militants poitevins. Et on s'est retrouvés aussi dans cet élan, et parce que c'est aussi cette lutte contre les méga-bassines, elle est importante dans la région du Poitou. Bon, on s'est retrouvés à Sainte-Soline, tout simplement. Cette lutte contre les méga-bassines, elle est importante, elle prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Hein. Le mouvement Bassine Non Merci, il existe depuis 10 ans. Et puis, depuis 2-3 ans, il y a vraiment une montée vraiment en ampleur de cette mobilisation. Et voilà, donc on était le 25 mars autour de cette méga-bassine. Avant d'y aller, ben, on a traversé comme tous les autres présents et présentes là-bas. Il y avait entre, selon les estimations, 20 000, 30 000 personnes. En tout cas, c'était massif. On a fait cette manifestation et on s'est retrouvés dans ces cortèges magnifiques, grandioses, colorés, joyeux et déterminés à la fois, et en même temps graves à la fois, à se rendre et à converger vers cette énorme méga-bassine qu'il est toujours difficile de se représenter tant qu'on ne l'a pas vue, en fait, d'imaginer ce que c'est. Je pense que plus on s'approche de cette méga-bassine, plus on se rend compte du gigantisme et de l'aberration de ce type de projet. Et arrivé au pied de la méga-bassine, ben en fait, les forces de l'ordre ont commencé à envoyer d'abord des lacrymogènes, puis un certain nombre de bombes, grenades explosives et mutilantes. Et là, pendant 2 heures, ça a été effectivement... une très forte répression, au point qu'il y a eu au moins 200 blessés physiques, dont 40 graves, et dont 2 dont le pronostic vital a été engagé. Donc, ce qui a frappé tous les esprits, c'était cette répression très forte. Ce livre-là, il est né donc d'abord de l'expérience commune de cette manifestation réprimée de Sainte-Soline. Et il naît particulièrement au moment où, dès le lendemain, avec un collègue, Étienne Douat, on a eu le souhait de proposer à des étudiants et à des militants et des collègues qui étaient engagés dans les manifestations de se retrouver pour parler de ce qu'on avait vécu. Donc on a fait une forme de débriefing dès le lundi après-midi qui a suivi le week-end. Et on a eu beaucoup de témoignages extrêmement émouvants. Et aussi le sentiment partagé qu'après la violence physique de Sainte-Soline, il y avait une violence d'un autre ordre qui était la violence politique et médiatique qui était vécue derrière. C'est-à-dire que certains jeunes, hein, on était à peu près 30 autour de cette table, beaucoup d'étudiants, pas forcément les nôtres d'ailleurs, peu des nôtres, mais en sociologie, mais de toute discipline qui était là, tous disaient on a allumé le poste de radio, on a allumé la télé, on a regardé sur nos smartphones les informations. Et là, c'était la stupeur d'entendre parler de la manière dont était raconté ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment de débriefing, qu'a émergé l'idée de construire un contre-récit, de dire qu'il fallait pas qu'on se laisse déposséder de cette expérience de Sainte-Soline, qui était beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ce que ne pouvaient en relater les médias, qui étaient, eux, focalisés sur les 2 heures de violence. Voilà comment est né ce livre, avec l'idée qu'on allait donner la parole aux personnes qui étaient là-bas, et qu'on allait leur donner la parole à la fois pour montrer tout ce qui avait été invisibilisé dans le traitement médiatique et politique, c'est-à-dire d'abord rappeler les causes de ces mobilisations contre les mégabassines, des causes qui sont anciennes, qui prennent de l'ampleur sur cette lutte de l'eau comme bien commun. Et puis ensuite, donner à voir aussi tous les moments qui avaient été complètement effacés de ce week-end, parce qu'en fait, c'était tout un week-end de mobilisation. Donc les gens pouvaient se retrouver dès le vendredi soir dans un camp, un grand camping qui avait été organisé. Avec des concerts, avec des prises de parole, mais ils se poursuivaient tout le week-end à Mel aussi, où avait été installé ce qui est appelé une base arrière, c'est-à-dire un lieu pour pouvoir accueillir des militants qui venaient de partout de toute la France, voire de l'Europe, voire même aussi qui avaient traversé pour certains l'Atlantique pour venir dans cette convergence des luttes au niveau international pour l'eau. Et donc, de rendre compte aussi de ça, de tout ce travail militant, de cette organisation gigantesque capable d'accueillir 20 000, 30 000 personnes, mais aussi de ces cortèges colorés, joyeux, des clowns qui portent une bouée avec l'idée d'aller se baigner dans la méga-piscine, des fanfares. Voilà, quelque chose de très, très joyeux, très fraternel, qui pour le coup n'apparaît absolument pas dans le traitement médiatique, puisqu'elle ne relate que, elle passe en boucle les images d'un camion qui brûle, de la gendarmerie qui brûle. Elle stigmatise, voire criminalise tous les manifestants en les traitant d'ultra-radicaux, d'ultra-gauchistes, d'éco-terroristes et autres termes qui visent à décrédibiliser les raisons de leur mobilisation. Et puis une troisième chose qui de ce fait a été complètement gommée dans le traitement médiatique, c'est l'hétérogénéité des personnes qui se sont rendues à Sainte-Soline. Et que montrer que derrière cette figure de facile à reprendre pour les médias dominants, de cette figure de l'éco-terrorisme, en fait, il y a une multitude de personnes, de raisons de se retrouver à cet endroit-là, les pieds dans la boue et dans ces grands champs à perte de vue. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu faire avec le livre et en donnant particulièrement la parole aux jeunes qui étaient là-bas.
C'est une lutte justement plutôt transgénérationnelle, si on en croit ce qui introduit le livre. Et donc, comment ça s'est fait, cette focale sur la jeunesse, sur cette génération ?
Oui, effectivement, toutes les générations étaient présentes à Sainte-Soline. Nous, on voulait faire un contre-récit, rapidement. Et en fait, sociologue, on est toujours... On arrive souvent un peu après la bataille, parfois, parce qu'on fait une recherche sur une mobilisation, sur des formes de lutte sociale ou écologique. Ben, on a le temps long de la recherche, de l'enquête de terrain, du dépouillement, de l'analyse des matériaux, de l'écriture. Et on arrive souvent, en quelque sorte, après la bataille. Là, il nous semblait qu'il fallait faire quelque chose assez rapidement, qu'on avait tous un sentiment d'urgence à raconter les choses différemment. Et donc, on s'est dit comment rendre compte, malgré toute cette hétérogénéité qu'on voulait donner à voir, il fallait choisir un angle. Donc, on a choisi l'angle de la jeunesse. pour plusieurs raisons. Je pense que d'abord, le point de départ, comme je le disais, du livre, c'est ce temps de débriefing avec des étudiants et des jeunes. Et que au cours de ce moment-là, il y a eu des très bonnes analyses de ce qui s'était passé. Il y avait, au-delà de l'émotion et au-delà de quelque chose de très sensible qui pouvait se dire, il y avait aussi des analyses très justes de ce qui s'était passé. Voilà, donc il y avait une manière un peu de, à la fois de rendre hommage en quelque sorte à ces jeunes qui étaient là et qui nous ont les premiers livrés ce qu'ils avaient vécu là-bas. Il y avait aussi cette idée que justement, parce qu'ils tenaient des analyses assez justes, en fait, ça permettrait, en tout cas c'était notre espoir, de aussi de casser les stéréotypes sur les jeunes, quoi. Les jeunes qui sont jamais comme il faut, bon, ça c'est assez vieux, toutes les générations ont subi, mais cette génération-là de 20 ans, autour de 20 ans, c'est... Soit ils sont éco-anxieux, déprimés, et ceci dit, ils ont des raisons de l'être, hein, objectives. Soit ils sont trop radicaux. Globalement, ce qu'ils font ne va jamais. Donc cette jeunesse, on la commande beaucoup, on la stigmatise beaucoup, mais on lui tend pas souvent le micro pour écouter réellement ce qu'elle a à dire ou ce que les jeunes, dans toute leur diversité, ont à dire. Voilà essentiellement. Et puis il y avait un troisième point qui, nous, en tant que sociologues, nous renvoie un peu à notre approche de travail. C'est qu'on est des sociologues qui sommes très attachés à une approche par la socialisation. C'est-à-dire la socialisation, s'il faut le dire un petit peu rapidement, mais sans doute les auditeurs ont l'habitude de ce terme, mais c'est l'idée d'intérioriser, d'incorporer un certain nombre de dispositions, de savoir-faire, de savoir-être, de même de savoir-penser ou de savoir-ressentir, qui sont liées à notre contexte à la fois le plus proche, mais aussi assez lointain, mais le contexte le plus proche de la famille, de l'éducation dans la famille, de les relations de travail, le contexte de travail, d'études, etc. Donc cette logique de socialisation... On se posait la question de savoir si, de quelle manière, puisqu'on commençait déjà dès le lendemain à dire que Sainte-Soline allait être un événement historique en termes d'histoire des luttes sociales et écologiques, on se demandait si cet événement à l'échelle collective pouvait l'être aussi à l'échelle individuelle. C'est-à-dire de quelle manière peut-être il y avait un avant et un après Sainte-Soline, comme souvent nous le disait, à l'échelle individuelle, et de quelle manière peut-être Sainte-Soline... ce qui s'était passé là-bas le 25 mars, avait pu être pour ces jeunes-là l'occasion d'une socialisation, ou en tout cas d'un choc biographique qui pouvait peut-être conduire à réinterroger le sens de sa trajectoire, de sa formation, ou de son travail, ou de son rapport à différentes choses, à la politique notamment. Voilà, donc on s'est dit, comme la jeunesse, c'est quand même aussi cet âge des possibles, relatif âge des possibles, parce que déjà beaucoup de... Voilà, les déterminés sociaux à 20 ans ont déjà beaucoup œuvré. Mais malgré tout, c'est un âge où les bifurcations sont peut-être plus faciles. Et on se demandait si Sainte-Soline peut-être allait conduire à des bifurcations. Voilà pourquoi la jeunesse, c'est ces trois raisons.
Et alors tu dis entre déprimés et radicaux, mais il y a aussi un autre stéréotype de la jeunesse qui serait une jeunesse dépolitisée justement, violente parce que dépolitisée. Ça revient un peu à ce que Bourdieu racontait déjà il y a longtemps sur ces images de la jeunesse qui brûlerait des voitures sans politisation. Et là, dans ce livre, ce qui est assez appréciable, c'est que ça rend bien compte de la complexité de la politisation de la jeunesse d'aujourd'hui, qui, comme le dit aussi Françoise Vergès, qui a participé, s'inscrit dans des luttes écologiques, mais aussi décoloniales, féministes. Enfin, on est quand même face à une jeunesse qui, en fait, prend à bras le corps plusieurs luttes comme des choses qui sont pas du tout séparables, en fait. On est vraiment dans quelque chose, dans presque une, moi j'ai l'impression, une hyper-politisation.
Oui, c'est tout à fait juste. En tout cas, alors voilà, on a le livre, il est composé de 8 entretiens, de 8 portraits entretiens avec 9 jeunes, parce qu'il y a un entretien qui se fait à deux. Et on a essayé de rendre compte d'une certaine diversité sociale chez ces jeunes. Donc même au final, on a même pas d'étudiants. On a des personnes qui sont diplômées, mais on a même plus d'étudiants, contrairement à notre première rencontre. Et effectivement, il se trouve que c'est ce qu'on saisit à travers leurs portraits et leurs verbatim, parce qu'en fait, il y a des longs extraits d'entretien, c'est ça ce qu'on a voulu faire. Hein. On avait un peu, puisque tu as cité Bourdieu, on avait un peu, de manière bien évidemment, pas avec la même ampleur, pas avec le même temps, on avait comme modèle La misère du monde de Bourdieu, pour ce qu'on voulait faire comme type, c'est-à-dire une courte introduction qui recontextualise la personne, qui explique quel est son parcours, ce qui a été marquant pour elle, et pour comprendre pourquoi et comment elle s'est rendue à Sainte-Soline, et puis ensuite lui donner à lire de longs extraits d'entretien. Donc c'est un peu ce qu'on a fait là. Et donc dans cette diversité, ce qu'on voit, c'est quand même effectivement malgré tout une très forte politisation de ces jeunes-là qui sont rendus à Sainte-Soline. Alors, tous ne viennent pas pour les mêmes raisons. Certaines, on pourrait dire, pour schématiser un peu, certains vont venir un peu pour des raisons sociales, dans le prolongement des mobilisations contre la réforme des retraites. Ils entendent parler de cette mobilisation contre les méga-bassines. C'est pas très loin de chez eux, ou au contraire, c'est loin de chez eux, mais en même temps, il y a une dynamique comme ça qui les pousse à aller. Et donc, certains vont un peu découvrir en route la question écologique. D'autres, au contraire, viennent plutôt vers les marches, ont déjà fait des marches pour le climat, et sont plutôt sensibilisés aux questions écologiques et environnementales. Et puis, on en a d'autres qui ont, en quelque sorte, déjà fait l'articulation. Je dirais déjà, c'est un peu évolutionniste comme pensée, mais en tout cas, qui clairement... Mais je dis ça parce que la mobilisation contre les méga-bassines, qui est organisée à la fois par le collectif Bassines Non Merci, la Confédération Paysanne et les Soulèvements de la Terre. Ensuite, il y a plein d'autres organisations syndicales, collectifs, militantes, associatives qui se sont greffées à cette organisation, à ces trois acteurs. Mais ces trois acteurs aussi, c'est leur... comment dire, c'est leur posture, c'est leur manière de penser, c'est-à-dire de ne pas dissocier les questions sociales des questions écologiques. Voilà, donc on voit effectivement et des propos politiques extrêmement structurés de la part de plein de jeunes. Et je pense pas qu'on puisse dire que la jeunesse est dépolitisée, ou en tout cas, on peut pas le dire plus à leur égard qu'à l'égard des générations précédentes. Ils ont finalement, ils sont aussi le produit de leur socialisation, puisque ça fait à peu près 50 ans qu'on dépolitise les rapports sociaux, en France comme dans d'autres pays, où on dit la politique, faut pas s'en occuper, c'est source de conflits, ou la politique, c'est pas pour vous, on va s'en occuper, où on casse des collectifs, où on individualise les situations de travail. Enfin, il y a plein de processus qui ont conduit en fait à une dépolitisation. Et donc, justement, ces jeunes, ils sont pas plus dépolitisés que leurs parents ou que leurs grands-parents. Ou en tout cas que leurs parents.
Encore un effort, 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 encore un effort.
Alors justement, tu parles de processus de socialisation, tu parles de travail, de aussi ce cliché de l'individualisme chez les jeunes. Bon. J'en viens donc à te demander, comment toi tu arrives à Sainte-Soline en fait. Est-ce que, alors c'est parce que tu es voisine, tu es à Poitiers, etc. Mais du point de vue de la sociologie, comment ça se passe dans ton parcours de sociologue, sur quels objets tu travailles à ce moment-là, et comment après tu fais le lien entre tes sujets habituels et ce nouveau terrain, si c'est un nouveau terrain, parce que peut-être tu en as eu d'autres de ce genre avant. Comment tu raconterais un peu ton parcours sociologique pour en arriver à ce travail ?
Oui, c'est une bonne question. Ce travail-là, pour moi, il marque un tournant. Voilà, peut-être que pour moi aussi, en termes professionnels et académiques, il y aura un avant et un après. On le verra, pareil, comme pour les jeunes qu'on a interviewés, on le verra dans quelques mois, quelques années. Mais c'est bien possible que ça représente un tournant. Et en même temps, c'est pas un tournant complètement radical dans le sens où depuis que je suis sociologue, mais même avant, je me suis orientée vers la sociologie avec une véritable intention ou préoccupation ou intérêt pour les questions politiques et pour la question aussi des contestations sociales, des luttes sociales. Moi, j'ai commencé vraiment au milieu des années 90 à m'orienter vers la sociologie, quand j'avais moi-même 20 ans. Et quand j'avais 20 ans, mais pile poil, c'était 1995, et c'était le mouvement social de grande ampleur, de la grande grève des cheminots. Et c'est aussi un moment où, en fait, Pierre Bourdieu est intervenu dans le débat public. Alors, Pierre Bourdieu, que j'avais vu un peu au lycée, et c'est d'ailleurs en l'étudiant que c'est ça qui m'a donné envie d'aller en sociologie, en fait. Donc, je me retrouvais, en fait, avec cet intérêt et pour la sociologie et pour la contestation sociale ou les luttes sociales. Un maître à penser, ou en tout cas, oui, quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours intellectuel, Pierre Bourdieu, prend la parole et va soutenir les cheminots. Et donc, bien sûr, ça a été très critiqué déjà à l'époque par les médias, d'un chercheur qui perd son objectivité. Donc ça, c'est une vieille question. Bon, on va peut-être pas l'ouvrir, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc moi, en quelque sorte, j'ai toujours eu à cœur d'essayer de diffuser les travaux de la sociologie au-delà de l'université. Déjà, c'est vachement important au sein de l'université. On est aussi des enseignants. Et donc, on accueille des jeunes de l'âge de 17 à 27 ans, enfin voilà, à peu près, après leur bac. Et déjà, de rendre accessible la sociologie, de former des jeunes à la pensée sociologique, à la démarche d'enquête, tout ça est très important. Mais aussi, hors les murs, moi, j'ai toujours contribué et... Depuis que je suis titulaire, depuis que je suis maîtresse de conférence, j'ai toujours participé en fait à des actions de diffusion du savoir sociologique, soit dans des festivals, soit auprès d'acteurs associatifs, militants, soit dans des auprès aussi de décideurs en fait, hein, par le biais d'enquêtes qu'on peut faire aussi parfois avec les étudiants. Donc d'essayer de rendre compte des travaux de sociologie plus largement dans l'espace public, que ce soit un festival, par exemple Raison d'agir, qui est directement en lien avec Pierre Bourdieu, qu'on organise tous les ans à Poitiers, le festival Filmer le travail aussi, qui est bien, donc voilà, et puis différentes interventions ou prises de position. Donc moi, aller à Sainte-Soline, c'était à la fois un prolongement de ça, mais aussi contextuellement, c'était parce qu'on était très mobilisés contre la réforme des retraites et qu'à Poitiers, c'est une lutte qui est importante depuis 2 ans.
Alors peut-être c'est pas, comme tu disais, le moment de développer ça, mais quand même, cette histoire de sociologie et de politique, nous, à Ethnovibro, ça nous intéresse quand même. Puisque dans Ethnovibro, quand nous avons entendu des sociologues, ils étaient quand même dans une certaine posture critique, en tout cas, de la société, de la reproduction sociale, etc. Bon, voilà. C'est ce qui nous intéresse dans la sociologie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être sociologue en France ? Avec ces questions d'engagement ou pas, et quand on est dans une institution, est-ce qu'il y a quand même une solidarité entre chercheurs ? Est-ce qu'il y a des conflits internes de manière institutionnelle dans le fait de s'emparer d'un sujet comme ça, très à chaud, très politique ? Enfin, comment ça se passe, en tout cas, du point de vue de la posture du chercheur, d'avoir cette sociologie critique aujourd'hui en France ?
Sacrée question. D'abord, peut-être dire que avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'est pas vraiment un bouquin de sociaux. mais il y a de la socio dedans. C'est plutôt comme ça qu'on pourrait le présenter. C'est-à-dire que ça a été vraiment le projet, ça a été de faire un contre-récit, et donc avec à la fois les récits voilà, des jeunes dont j'ai parlé, mais aussi ce dont tu n'as peut-être pas parlé, j'en profite, voilà, des textes d'analyse, d'intervention, des témoignages à la première personne, par une médic, une jeune qui a été blessée, par voilà, toute une série d'acteurs qui étaient déjà présents, qui étaient présents à Sainte-Soline, par les organisations organisatrices, les collectifs qui ont organisé Sainte-Soline. Donc voilà, on a 32 textes au final, 30 textes, pardon, au final, et qui donnent à voir un peu, voilà, c'est un peu un livre polyphonique en quelque sorte, mais nous on est assez en retrait en fait, c'est-à-dire qu'en dehors de l'introduction qui nous a semblé utile pour contextualiser ce que contenait le bouquin et de quoi ça allait parler et ce qui s'était passé, un petit peu ce que j'ai raconté en résumé tout à l'heure, et en dehors des introductions, des portraits des jeunes, on est peu là les sociologues. On a plutôt été sociologues dans la démarche, d'une part, de s'appuyer sur nos outils méthodologiques de l'entretien, des entretiens biographiques, d'entretiens approfondis, longs, avec des personnes pour comprendre leur point de vue sur le monde, et puis pour recontextualiser, établir des faits, documenter Sainte-Soline. Et puis, on a été sociologue aussi dans notre souhait de contextualiser, encore une fois, mais aussi d'essayer de recouper, de recouper les faits, de recontextualiser cette lutte, mais de recontextualiser les trajectoires. Voilà, donc là, on était pleinement sociologue, aussi d'avoir cette approche en termes de socialisation, mais qui n'est pas tellement explicite ou tellement... Voilà, c'est pas un livre qui est un peu verbieux, c'est pas un livre qui est trop dans l'analyse, enfin, qui reste quand même un livre assez sensible, en fait. Donc, le travail d'objectivation, il est assez... il est là, mais il n'est pas majeur. Alors, comment on est sociologue critique aujourd'hui? On essaye, je crois, comme tout le monde dans ces métiers, de préserver de l'autonomie là où on peut en préserver. Il se trouve qu'à l'université et dans le monde de la recherche, de manière générale, les conditions se sont durcies pour financer la recherche, pour avoir des sujets librement choisis. Mais surtout pour les chercheurs et chercheuses qui ont besoin de beaucoup d'argent pour faire leur recherche. Hein, les sciences fondamentales, elles sont obligées d'avoir un équipement qui vaut plusieurs dizaines, centaines, voire parfois des millions d'euros. Donc là, il faut des financements. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la recherche en France, elle est contrainte par les formes d'appels à... Donc, il n'y a pas de financement pérenne. Il faut répondre à des appels à projets. Et dans ces appels à projets, il faut déjà montrer, avoir la preuve qu'on va avoir des financements de type privé. Donc, ce qui fait dire, par exemple, dans le livre, il y a Anne Morwen-Pastier, qui est hydrogéologue. Et elle a quitté la carrière académique. Parce qu'en fait, elle voit bien que sur ces sujets, en fait, les financements privés qui peuvent trouver ses collègues, c'est Veolia et c'est tous ces gros groupes qui s'occupent de privatiser l'eau . Donc c'est extrêmement compliqué. Mais il se trouve qu'en sociologie, en sciences sociales, quand même, on a encore un peu de la chance, c'est qu'on peut faire de la recherche avec des faibles moyens, de manière un peu artisanale, avec tout le sens noble du terme artisanat, je pense, mais enfin que moi, je voudrais bien reprendre à mon compte. Mais effectivement, il y a une pression qu'on a à un niveau institutionnel, au niveau collectif comme individuel, pour... au contraire, répondre à des appels à projets, avoir de l'argent, trouver des moyens, faire des recherches internationales, des collaborations internationales, des collaborations pluridisciplinaires. Donc en fait, c'est des gros machins qu'on fabrique pour donner de la visibilité, pour être dans les classements internationaux. et qui sont, comme dans plein de politiques, qui sont assez hors sol. Donc, on a, je crois, encore une chance, grâce à notre statut de fonctionnaire, hein, qui est aussi, lui, menacé, ou en tout cas, quand on voit les difficultés pour les jeunes, aujourd'hui, de docteurs, d'entrer dans ces métiers-là et d'avoir un statut, c'est là où est la menace. Mais moi, c'est mon cas, je suis fonctionnaire, je pense que je fais mon travail avec cette autonomie, et j'essaie de me saisir pleinement de cette autonomie, parce que je suis assez consciente du privilège que j'ai. Donc j'essaie de ne pas le gâcher, et d'être à la hauteur aussi de m'en servir aussi pour réfléchir à ma position et à la manière dont la sociologie peut être utile. D'autres scientifiques, non pas de sciences sociales, ont pris aussi position, que ce soit les scientifiques en rébellion qui sont constitués en collectif, mais que ce soit plein de personnalités scientifiques qui ont pris position sur la question des politiques ou des non-politiques contre le réchauffement climatique ou sur la biodiversité. Donc là, on n'est pas les seuls. Et puis, je crois qu'on est très malmené. Enfin, comme tous les services publics à l'université, on est très malmené. Donc, il y a aussi cet aspect un peu de dire faut trouver une manière de résister. Je pense à tous les personnels et puis aux étudiants aussi. Et après, il y avait la question de comment faire collectif ou comment travailler collectivement. Cette logique, en fait, qui s'est imposée dans le monde de la recherche, mais comme partout ailleurs, elle a eu tendance à individualiser, à mettre les gens en concurrence pour des postes, pour des primes, comme partout, tout le système d'individualisation des salaires par les primes, ça joue pour des postes, pour des publications, pour un certain nombre de choses. Donc c'est une logique très concurrentielle. Et je crois qu'avec ce livre aussi, c'est un ensemble, hein, en fait. C'était aussi de se dire, en fait, on peut faire quelque chose. Donc, on est tous chercheurs à l'Université de Poitiers. Enfin, il y a Joanne qui est chercheuse plutôt à l'Université de Marne-la-Vallée, pardon. En fait, on était dans un moment collectif par les mobilisations contre la réforme des retraites et par la mobilisation contre les méga-bassines. Et qu'on a voulu le prolonger aussi entre collègues, ce mouvement. Donc c'est possible. C'est vrai que depuis mars, le livre est sorti le 8 mars, on continue à fonctionner de manière collective entre nous autour du bouquin, mais on voit bien, on fait l'observation et on en parle, qu'on risque d'être repris dans ces logiques aussi académiques qui nous rattrapent, quoi. Parce qu'il y a du boulot à rendre, il y a un papier à rendre, il y a une enquête à faire, etc.
C'est pour ceux qui ne savent pas encore qu'il y a des mobilisations les 20 et 21 juillet dans le Poitou contre les méga-bassines. La pierre la chasse, la bassine.
pleure, sa bassine, la sa bassine.
Son mât il se poussera,
pas nous on arrigora.
Dans tes travaux sociologiques, tu disais il y aura peut-être un après Sainte-Soline. Et donc, comment ça se passe entre la sociologie du travail, Sainte-Soline et maintenant, vers quoi tu t'embarques ?
Oui, bah, là, c'est en réflexion. Donc ça, bon, peut-être que du coup, ça gravera dans le sillon ou dans l'enregistrement ma réflexion actuelle. Oui, moi, je suis plutôt sociologue du travail. Il se trouve que j'ai... Ça fait maintenant 25 ans que je documente le monde du travail et particulièrement les politiques managériales. Il se trouve que j'ai fait ma thèse, c'est toujours chez les chercheurs le moment fondateur qui fige un peu, qui cristallise un petit peu les orientations, enfin parce que c'est un moment très formateur, hein, et puis qui permet de faire des choix. Moi, j'ai fait ma thèse sur les politiques de développement personnel, les formations de développement personnel en entreprise et le coaching. Donc j'étais en plein dans à la fois une individualisation des rapports sociaux de travail, mais aussi une psychologisation des rapports sociaux de travail, c'est-à-dire comment... pour le dire vite, hein, comment, quand on a des personnes qui sont en souffrance psychique, quand on a une déréorientation permanente et que les gens n'ont plus trop de repères dans leur travail, quand il y a des formes de déqualification professionnelle qui sont organisées, comment les directions de ressources humaines propose des outils qui vont plutôt leur apprendre, enfin, on leur propose plutôt d'apprendre à gérer leur stress, à réfléchir à ce qu'elles souhaitent faire, mais en les renvoyant à leur personnalité, à un certain nombre d'éléments de leur vie privée, personnelle, intime, et tout ça avec une logique très psychologique. Donc comment aussi on dépolitise complètement de cette manière-là, comment on gomme la responsabilité organisationnelle de l'organisation du travail, de la charge du travail, des orientations stratégiques de telle ou telle entreprise, du sens du travail, bon bref, plein de choses. Donc moi, ça fait 25 ans que je travaille plutôt sur ces questions, et dernièrement... Ces dernières années, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les travailleurs des plateformes numériques, type les livreurs à vélo. Donc j'ai fait pas mal d'enquêtes dans tous ces mondes-là, la grosse entreprise, au contraire la toute petite entreprise individuelle, mais au service, qui se vend pour une plateforme internationale qui, elle, cherche à compresser les coûts du travail et utilise plein de biais, de ressorts juridiques pour le faire, donc qui exploitent vraiment les personnes. Et je crois que je m'épuise un peu à voir en fait le monde du travail plutôt sous un angle de la souffrance et de la souffrance ou de l'exploitation c'est-à-dire je m'épuise dans le sens où ça fait à peu près 25 ans que j'ai quand même l'impression de voir les mêmes mécanismes à l'œuvre, voir certains qui étaient appliqués plutôt dans le privé il y a 25 ans, mais qui viennent dans le public maintenant, ou dans l'associatif, dans le milieu associatif maintenant. Et donc, j'ai l'impression à la fois d'être riche d'un savoir, mais que ce savoir, il sert pas à grand-chose, quoi. Si ce n'est de sonner la sonnette d'alarme régulièrement, pour dire, ce que vous êtes en train de mettre en place, moi, je l'ai observé il y a 10 ans ou il y a 20 ans dans le privé. Je peux vous dire les conséquences, mais quand même, le truc passe quand même, quoi. Donc, en fait, il y a un petit peu cet épuisement-là. Et par ailleurs, autour de Sainte-Soline et de tout ce que j'ai pu observer, à la fois en étant là-bas, mais aussi en étant militante ou en étant proche des cercles militants organisateurs, ce que je constate aussi, c'est l'énorme travail, en fait, de quelle manière le travail bénévole, comment les militants, les bénévoles qui s'impliquent dans ces mobilisations, comment on peut aussi regarder leur action comme du travail. C'est pas nouveau de faire ça, mais c'est très riche. Et comme ça fait quand même plusieurs années que je réfléchis à analyser plutôt le travail par ses marges et aussi par le fait sortir de la grande entreprise et regarder un petit peu des personnes ou des expériences pour tenter d'autres choses, de travailler autrement aujourd'hui, d'expérimenter un autre rapport au travail. Peut-être que continuer à suivre les militants, militantes anti-bassines, ça va me permettre de regarder ça d'un peu plus près.
D'ailleurs, il y a un rendez-vous dans l'été ?
Il y a un rendez-vous cet été, un grand village de l'eau qui est organisé dans les Deux-Sèvres, juste à côté de Mel. Dans une grande ferme avec des grands champs autour et... la programmation est déjà gigantesque. Ça va être 5 jours complets de conférences, de concerts, d'échanges divers et variés, avec un grand campement, des grandes cantines. Enfin, tout a été pensé pour accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et puis 2 jours de manifestation le vendredi et le samedi. Donc c'est vraiment l'endroit, je crois, cet été où il va se passer des belles choses, très inventives et très joyeuses, très fraternelles. Donc c'est vraiment, je vous invite tous et toutes à vous rendre. J'y serai, moi je suis dans le groupe Trace, qui est un groupe qui, un peu comme avoir 20 ans à Sainte-Soline, aussi dans cette idée, cherche à recueillir, à constituer, créer des traces de cette mobilisation pour écrire sa propre histoire et ne pas se laisser déposséder aussi du récit sur ces luttes anti-mégabassines.
Merci beaucoup Hélène pour cette rencontre et cette interview et rendez-vous en juillet alors.
Oui, merci beaucoup à toi Anaïs, merci.
Merci Hélène. Pour les dates du village de l'eau dans le Poitou, ce sera du 16 au 21 juillet à Mel dans les Deux-Sèvres donc. Je vous invite à regarder le programme fort fourni, tout à fait accessible sur internet, le village de l'eau dans le Poitou du 16 au 21 juillet. Pour la musique, donc, c'était Clume, c'était aussi une ronde du Quercy des Tabanards, dansée et chantée par les participants des rencontres du Galaison.
Sachez que vous pourrez réécouter cette émission sur les ondes de Radio Escapade vendredi prochain à 14h, mais aussi à votre guise sur internet à la rubrique podcast de la radio ou bien sur l'audioblog Ethnovibro hébergé par Arte Radio. Vous pourrez aussi la réécouter dans la grille estivale de Radio Escapade. Et oui, elle rediffusera chaque semaine un numéro d'Ethnovibro de la saison fraîchement écoulée, ce qui veut dire que dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver notre émission avec Yaël Antoine et la lecture du texte de Hélène Hertz sur les matrimoines. Et dans 15 jours, vous retrouverez l'émission avec notre camarade Gaëla Loiseau, etc., etc. Que du bonheur à emporter sur la route des vacances ou au bord de la rivière pour une sieste radiophonique. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été de radio, de lecture, de musique et de lutte vibrante, joyeuse et déterre. Je vous donne rendez-vous à la rentrée avec impatience, je l'avoue, pour une nouvelle saison d'Ethnovibro, l'effet social total.
Que la pluie se précipite. Que riu vulgui ser salat, que el mar pugui pels terrats, el meu cor tot fet de liti. No sabia que els principis eren nascut del final. Les cançons són immortals en aquest segon de vida on tot sembla fet a mida. Plorem parts i funerals. I elles pareixen mentre ells celebren funerals. Les cançons són immortals. I elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals.